I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast ce soir. Hello, Big Rusty.
Hello, game.
Donc là, on s'intéresse à la victoire d'Amanda Nunes, défaite d'Amanda Nunes face à Juliana Peña, énorme upset, mais vous allez voir qu'on n'est pas content du tout, du tout, du tout, du tout. Là, moi, je suis, je suis vraiment révolté par la performance d'Amanda Nunes, je dirais même plus, c'est elle qui a perdu plus tôt que Peña n'a gagné. Vous allez voir ça dans quelques instants. Générique, Rusty ?
Générique.
Soir.
Amanda Nunes s'est donc inclinée pour la première fois depuis belle lurette, depuis sa défaite face à Kat Zingano, la championne bantamweight depuis l'UFC 200, et une victoire face à Misha Tate, donc une éternité si vous voulez, c'était en 2016, s'est inclinée, la champ est tombée par soumission au deuxième round face à Juliana Peña. Pourtant tout avait très bien commencé pour Amanda Nunes, elle était impressionnante dans le domaine de prédilection de Peña, à savoir le grappling. On se disait, oula, ça va être une très très mauvaise soirée pour Peña. On avait d'ailleurs pris les paris, hein, c'était à quel moment allait-elle finir Peña. Et puis le deuxième round, on n'a rien compris, mais vraiment rien compris du tout. Enfin, très très surprenant de la part d'Amanda Nunes. Je me dis, peut-être qu'elle s'est dit, tout simplement, elle termine tout le monde debout, elle est dans une situation de confort extrême, et elle s'est juste dit, elle va tomber, elle va finir par tomber.
Mais ouais, mais même si c'était ça, elle était pas rapide, elle était pas propre dans ses techniques. Il y a rien qui allait en fait.
Parce que pour expliquer ce qui s'est passé,
oui. Rust. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc tu l'as dit, premier round, elle domine. On se dit bon bah ça y est, tout est bon, tout est parti.
Dans le domaine de prédilection de Peña.
C'est-à-dire la lutte, le clinch, tout ça, les transitions. Et le deuxième round, donc les échanges debout commencent. Et là, Nunes fait n'importe quoi. Elle ne bouge pas la tête. Elle fait des combinaisons qui sont tout le temps les mêmes et ses low kicks sont soit mal placés, soit elle hésite même à les mettre, elle est mal positionnée pour les mettre, très mauvais timing, elle est lente, ses techniques sont pas propres. Et en fait, très très vite, au bout de quelques échanges, on s'est dit « Attends, mais qu'est-ce qui se passe là en fait ?» Enfin, wow. Et en gros, chaque échange, on est en mode « Attends, mais à quel moment elle s'y met en fait ?» Et à un moment, on a compris qu'en fait, elle allait jamais s'y mettre. Et la raison pour laquelle on dit qu'on a l'impression que c'est Amanda qui a le plus perdu que Juliana Peña a gagné, c'est qu'en fait, bah, on sait de quoi elle est capable. Amanda Nunes, on l'a vu faire ce qu'elle a fait contre toutes les autres combattantes de gros calibre avant. Et là,
on parle de quelqu'un qui a quand même battu Holly Holm, strikeuse d'élite,
mais oui,
et Valentina Tchachenko par deux fois.
Et là, elle nous fait un truc vraiment. Et vraiment, on n'en rajoute pas en termes de niveau de striking. Là, il faut remonter aux années 2000 pour trouver des trucs comme ça. Enfin, les échanges qu'il y avait, il y a même des moments où, franchement, j'avais des flashbacks, tu sais, de Don Fry, je crois que c'est Takayama, où ils se chopent par la nuque et ils font des trucs sans aucune technique. Il y avait des échanges, aucune ne bougeait la tête. Il y a juste, si je me souviens bien, Peña qui mettait des 1-2 un peu plus précis, un peu plus rapide, donc ça avait l'air de passer. Mais vraiment, c'était tellement pauvre techniquement de la part d'Amanda Nunes, alors qu'on sait de quoi elle est capable, qu'on n'a rien compris. Je sais pas si elle s'est pas entraînée, je ne sais pas.
Non, mais pour moi, c'est même pas un manque d'entraînement, là, c'est juste le fight IQ qui était aux fraises, mais complètement aux fraises, parce que tu peux pas tout oublier comme ça.
Bah ouais, mais c'est pour ça.
On parle de. Ouais, non, enfin, on parle de quelqu'un qui a battu tout le monde, qui a nettoyé la catégorie. C'est vrai que même si sa belle victoire face à Chris Cyborg, ça avait pas non plus, pour le coup, c'est Chris Cyborg qui avait aussi fait n'importe quoi, et c'est là où on s'est dit, c'est dommage, mine de rien, qu'un combat aussi attendu se termine de cette manière-là. Mais en tout cas, là, pour Nunes, Je regrette aussi que lors de sa post-fight interview, elle n'ait pas justement mis l'accent là-dessus. Tu vois, j'ai un petit peu fait des erreurs.
Mais je pense
que
elle a même dit l'inverse. Elle a dit bah, j'étais bien préparée.
Exactement. Donc peut-être qu'à l'avenir, elle va revenir sur ce qui s'est passé sur le combat. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite de manière un petit peu plus éclairée. Mais là, pour nous, vraiment, c'est ultra surprenant. Les gens qui sont hyper impressionnés par ce qu'a fait Juliana Peña. Enfin, honnêtement, moi, c'est pas. On en parlait avec Rose Durogan, qui est là en mode le plus gros upset de l'histoire de l'UFC. Quand vous regardez ce qui s'est passé pour Holly Holm face à Ronda Rousey, là c'est une vraie belle performance d'Holly Holm, mais là c'est quelque chose d'indiscutable. Là on est dans une situation où vraiment il y a la revanche et Nunes fait du Nunes, elle se fait déglinguer en fait Peña. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal moi avec ce combat là pour la revanche. Si ça se passe dans des conditions normales, je pense que tout le monde va redescendre sur terre, va se dire ah oui d'accord, en fait elle fait n'importe quoi lors du premier combat.
Ben ouais, non, et puis même cette histoire de plus gros upset de tous les temps, je suis un peu surpris parce que effectivement, premièrement, même en sortant pas des catégories féminines, c'est vrai que effectivement Holm Rousey c'est un beaucoup plus gros upset, je trouve, parce que représenter Rousey, parce que là, on avait vraiment cette impression, à part Chris Cyborg, que effectivement Amanda Nunes, elle marchait sur toutes les filles, mais parce que le niveau n'était pas très élevé. Ses dernières adversaires, on ramenait entre guillemets, l'UFC ramenait ce qu'il pouvait, quoi, ce qu'il trouvait de plus haut niveau, en allant les chercher même dans d'autres orgas, etc. Donc, je sais pas, je trouve que c'est peut-être un petit peu exagéré de dire plus gros upset, sachant que c'est une championne qui. Tu vois, c'est un peu comme si une fille battait Shevchenko maintenant, tu vois. Elle est impressionnante, mais c'est pas comme si c'était genre Khabib qui marche sur la catégorie lightweight, qui est genre, il y a que des tueurs à gages. Enfin, je trouve que c'est un petit peu démesuré d'appeler ça comme ça. Et je crois que je suis d'accord, c'est-à-dire que là, c'est plutôt une contre-performance de Nunes, et c'est vrai que je sais pas s'ils vont faire un rematch. Parce qu'en fait, je me dis aussi, c'est peut-être que Nunes est un peu fatigué, tu vois. Genre. Bon, maintenant elle est riche, elle est millionnaire, elle a tout fait dans la catégorie, dans les catégories du MMA féminin à l'UFC. Voilà, il y a Anderson Silva qui parlait de la fatigue d'être champion. Peut-être que c'était ça pour Nunes, quoi. En plus, elle en parlait déjà du fait que elle avait un peu la flemme, que maintenant elle pense à la retraite. Elle en parlait déjà. Elle avait, comme on dit, déjà un pied dehors, quoi. Et peut-être que c'est ça. Je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas quoi en penser, en fait, quoi. C'est contre-performance, peut-être un rematch, oui, et effectivement, si elle fait une grosse performance, d'accord, mais alors, dans ce cas-là, enfin, qu'est-ce que ça aurait été que ce combat, quoi.
Exactement, je ne comprends pas, Rust, je comprends pas du tout ce qui s'est passé de la part d'Amanda Nunes. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a dit après le podcast, là, tout le monde va vouloir affronter Peña.
Ouais, ça, c'est un peu en mode, quand Bisping a gagné le titre en middleweight, en fait, c'est en mode, tout le monde, maintenant, est en mode, ah, putain, c'est prenable, je veux... Effectivement, il faudra parier que ce sera ça. Ouais.
En tout cas, très surprenant hein, cette défaite d'Amanda Nunes, un combat où elle était évidemment large favorite. Mmh. Bah, le plus gros upset de la soirée. Finition en plus. Donc là, on va voir ce qui se passe pour la suite. Je pense à mon avis que l'UFC va faire une revanche parce que honnêtement, elle est championne depuis 5 ouais, piges maintenant.
C'est tout le, en gros, c'était la goat féminine et tout ça. Donc oui, je pense, c'est sûr. Mais
ça fait tâche. Vraiment, ça fait tâche.
Et en fait, ce qui fait tâche aussi, c'est que... Donc c'est une soumission. Mais comme l'a fait remarquer, je crois que c'était Cerrudo. Je crois, je ne veux pas mettre de mots dans sa bouche. Mais en gros, qui disait, c'est vraiment, tu sais, ce genre de soumission de fatigue. C'est parce que les crochets n'étaient même pas mis lors de l'étranglement arrière.
Complètement.
Ça a été assez rapide au niveau du tap. De l'abandon, et je pense effectivement qu'elle était juste complètement submergée en fait, Amanda Nunes. Bon, évidemment, enfin, vu le brawl qu'il y a eu juste avant, les coups qu'elle a pris, c'est sûr, et la fatigue qui va avec le stress de te dire je prends des coups, je comprends pas pourquoi, évidemment, c'est sûr, mais effectivement,
si à aucun moment j'ai eu l'impression, en tout cas moi, dans son langage corporel, qu'elle était complètement aux fraises, tu vois.
Je sais, en tout cas,
de la panique dans ses yeux.
Panique, non, effectivement, peut-être pas, mais du coup, une impression de « Ah oui, maintenant, elle est vraiment perméable, en fait. Elle est vraiment, elle est prenable. » Les premières fois où elle a commencé à se faire sonner et où on sentait qu'elle était un peu plus l'équipe n'était plus là, etc. Ben, pour moi, il y a eu un déclic en mode ah oui, d'accord. Enfin, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a commencé à se dire dès les premiers échanges en mode elle va se faire mettre KO en fait là. Et c'est donc ce qui s'est passé parce que ouais, enfin, cette impression de ah oui, maintenant elle est complètement submersible en fait.
Affaire à suivre en tout cas pour Amanda Nunes et pour la nouvelle championne Peña. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça apporte un petit peu plus de dynamisme dans cette catégorie
bantam. Tant mieux pour elle, hein, tant mieux pour Jenia Peña, ça fait trop plaisir et ça a l'air d'être quelqu'un qui a un beau message à faire passer aussi. Tant mieux pour elle, hein, tant mieux pour elle.
Non, c'est clair. Et puis non, mais vraiment, moi je suis content juste pour la catégorie parce que ça devenait ultra redondant. Déjà que mine de rien, Amanda Nunes a fermé la catégorie des featherweight à l'UFC. Là, au moins, il va y avoir un petit peu de nouveaux combats dans la catégorie bantam. Et puis Rust a été un peu dur, je trouve aussi. Certes, ces dernières années, Amanda Nunes n'affrontait pas des cracks de chez les cracks, mais tout simplement parce qu'elle avait tout nettoyé. Il ne faut pas oublier qu'elle a affronté des randami, elle a affronté Holly Holm, elle a affronté Ronda Rousey,
Misha
Tate. C'est juste que là, il n'y avait plus personne, tout simplement. Et qu'on était dans une catégorie, dans une situation aussi, hein. C'est même le combat contre Peña, c'est pour ça qu'on n'en avait rien à foutre, hein, très clairement. C'est que ils étaient obligés de précipiter des challengers. Là, vous regardez Peña, elle était troisième parce qu'il y avait le title shot au moment de l'officialisation du combat. Je crois qu'elle est sixième de la catégorie. Enfin, il fallait mettre des gars parce que si vous regardez le rang, enfin des gars, il fallait mettre des adversaires pour Nunes parce que si vous regardez le classement des bantamweight, tout le monde a pris tarif.
Ouais. Non, c'est vrai. T'as raison. C'est vrai que j'avais cette impression effectivement parce que on savait plus où aller les prendre quoi. Mais
cela dit, mais parce que voilà, restez. Ne vous dis pas tout. C'est juste qu'il y a une connexion particulière entre nos deux cerveaux surdéveloppés. C'est tout simplement que ces dernières années, c'est vrai qu'au niveau des adversaires d'Amanda Nunes, il y avait plus qu'il y avait avant. Et c'est peut-être ça aussi qui est en trompe-l'œil, dans le sens où elle était toujours dominante. Mais
la nouvelle génération ne perçait pas, quoi.
Exactement, la nouvelle génération ne perçait pas. Donc il y a peut-être eu ça aussi, tu vois. Une Amanda Nunes qui était un petit peu installée, qui était contre des Megan Anderson, contre des Felicia Spencer, contre. J'ai pas le nom de sa dernière défense de ceinture chez les Bantam, malheureusement. Mais non.
Je sais plus.
Ouais, nous n'avons pas. Mais en tout cas, voilà, c'était plus on va dire la même adversité de ce qu'elle avait pu connaître précédemment, où là on se disait ok, là c'est vraiment pour l'histoire ce qui est en train de se passer du côté d'Amanda Nunes. Voilà. Ouais. Donc là ça apporte du dynamisme. On a fait le tour sur la question.
D'accord, Louis.
Moins 38% sur tout ma portée avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Et puis Tsumé pour la magnifique déco de notre podcast de notre studio. See ya.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.